Vaux.
Couture dans le mid.
Avec Pierre Couture et Frank Fournier.
Radio X.
Ouais, mais moi, j'ai pas voté pour ça. Là, Carney en Europe, Frank, as-tu voté pour ça, toi?
Non. J'ai pas voté pour ça.
Voilà. Jacinthe Everell, comment ça va?
Ça va bien, merci.
As-tu voté pour ça, toi, Carney en Europe? Moi, j'ai pas vu ça, là. J'ai pas eu le mémo. On va-tu joindre l'Union européenne? Là, ils parlent d'une grande nouvelle, un nouveau partenariat unique.
Ben oui.
Comment tu vois ça?
Non seulement on n'a pas voté pour ça, mais en plus, le Parlement siège pas à Ottawa depuis... on ne le sait même plus depuis combien de temps.
C'est pas important, ça.
C'est mort, cette institution politique. Alors, il n'y a même pas moyen d'en parler. Nos parlementaires n'en discutent pas. Et le parti d'opposition n'est pas en mesure de faire son travail correctement non plus. Les médias non plus n'ont pas accès au premier ministre comme il aurait accès durant une session parlementaire normale. On sait, M. Carney, dans ses dernières allocutions, il a fait seulement des apparitions en vidéo préenregistrée. Donc, une belle façon de ne pas répondre aux questions.
On ne sait pas, il est où. Qu'il est à Banff parce que Zelensky est débarqué à Banff.
Oui. Donc, il devait arriver hier pour la rencontre à Banff qui se déroule aujourd'hui et demain, mais on ne l'avait pas vu depuis le 3 septembre dernier à Thunder Bay, où il avait été présent physiquement. Le reste, ça a été des apparitions filmées. Alors, il gouverne franchement d'une drôle de manière qu'on n'a pas connue quand même tant que ça ici au Canada, de prendre des décisions d'envergure comme ça, de se diriger vers l'Union européenne. C'est très particulier et c'est de ça que je voulais vous parler ce matin parce que on entend parler un peu, mais le Canada veut se rapprocher.
L'info
de
vient
l'Union
beaucoup
européenne.
De l'Europe. Hein?
Oui,
hein?
Ça vient beaucoup de l'Europe. Et l'année dernière, le 23 juin 2025, là, Mark Carney avait signé un nouveau partenariat stratégique Union européenne-Canada. Donc, Mark Carney s'était assis avec Ursula von der Leyen et Antonio Costa pour justement là, rapprocher le Canada de l'Union européenne. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, cette tentative de se rapprocher. Et je sais que les gens sont souvent tentés de voir ce rapprochement-là comme quelque chose de positif parce qu'on a tellement martelé le message qu'il faut diversifier notre économie, il faut se trouver d'autres clients ailleurs, que quand on entend cette nouvelle-là, on a l'impression que c'est très positif. Mais moi, je vais vous apporter des angles morts de ce rapprochement-là.
Ça fait combien d'années qu'on a un traité de libre-échange avec l'Europe? Ça fait quoi, 10 ans à peu près?
Oui, oui.
C'est quoi le pourcentage de nos exportations réelles du côté de l'UE?
Exactement. Hein? Le Canada, en 2025, a exporté en Union européenne 42,8 milliards de dollars de biens, mais il a importé 91,6 milliards de dollars. Donc, le Canada a un déficit commercial de 48,8 milliards de dollars avec l'Europe. Mais oui. Donc, quand on est en déficit commercial avec l'Union européenne de 48,8 milliards, c'est qu'on est en mesure de constater qu'on achète plus qu'on vend. Donc, est-ce qu'on fait de l'argent? Est-ce qu'on diversifie notre marché tant que ça avec l'Union européenne ou c'est l'Union européenne
qui profite? Bien, les autres font en passe avec nous autres, là.
Ben oui.
Puis, je ne sais pas si tu avais vu, quand le traité est arrivé, les fromages, le fameux fromage président, là, gros Saint-Brie, ça, c'est un... Je sais pas trop. Ben écoute, il était pas cher, là.
Ouais.
Les prix ont monté, là.
Oui. Oh oui. Donc, ce rapprochement-là qu'on va constater, là, parce que Mark Carney va aller prononcer un discours la semaine prochaine à Bruxelles devant le Parlement de l'Union européenne, devant les 720 parlementaires de l'Union européenne, pour annoncer finalement qu'on va signer des ententes, notamment sur la défense, sur l'industrie du numérique. Mais il faut savoir, là, ceux qui ne suivent pas nécessairement la politique internationale de près, l'Union européenne, c'est une fédération qui regroupe 27 États membres. Et c'est pas un bloc monolithique d'intérêts, là. C'est surtout une grande puissance normative et réglementaire
qui vient imposer règlements
par-dessus règlements aux 27 États membres. Et c'est une coalition de 27 points de vue différents, 27 États qui ont des intérêts différents, 27 parties prenantes. Donc, c'est loin d'être une garantie d'alliance productive et réciproque sur le plan mutuellement bénéfique entre le Canada et l'Union européenne, parce que la minute où il y a des discordes au sein de l'Union européenne, ben, le Canada pourrait en payer le prix. Et on se demande si on va pas... Moi, en tout cas, c'est ce que je me demande et j'aimerais qu'on se pose toute la question. Est-ce qu'on tente de remplacer une dépendance commerciale américaine avec une dépendance réglementaire et stratégique européenne.
Là, en plus, on est déficitaire. Là. On se fait avoir. Ils viennent nous vendre plus de bébelles que nous autres, on leur en vend. Ça veut dire que c'est un marché-là européen pas très ouvert non plus?
Non. Il n'est pas très ouvert. Il est auto quand même. À 27 États, là, sont quand même assez autonomes.
Il y a des blocus qu'ils peuvent en faire.
Ils sont capables de, entre eux, s'approvisionner, se vendre, s'échanger des biens et marchandises qui font en sorte que, est-ce qu'ils ont besoin de nos ressources absolument? Oui, certaines ressources minières.
Ouais, on leur vend au prix qu'on doit le vendre.
Oui, mais justement, est-ce qu'on va vraiment en profiter de notre point de vue ou on va juste être une belle terre où ils pourront exploiter nos ressources naturelles? Il faut faire attention. On a l'impression qu'on aime tous l'Europe. Hein? On aime tous voyager en France, en Italie, au Portugal. On adore la Grèce. Ben oui, c'est beau.
La Grèce n'est pas un modèle non plus. Là.
Non, mais justement, sur le plan économique, c'est complètement autre chose. C'est une structure réglementaire extrêmement rigide. Et avec 450 millions d'habitants, l'Union européenne a beaucoup plus de chances de nous imposer plus de normes, plus de cadres réglementaires que nous.
Ben oui, ben regarde, j'ai plusieurs exemples à donner là-dessus parce que, en gros, l'on fait miroiter aux Canadiens que les États-Unis sont protectionnistes, vous allez voir, l'Europe va tout accepter nos patentes, puis on se tourne vers eux. Ben quand on parle de normes, l'Europe applique des règles très rigoureuses sur les produits alimentaires, notamment en ce qui a trait aux ingrédients, les hormones, ce genre de choses-là. Puis là-bas, si vous suivez les médias sociaux de plusieurs influenceurs français, notamment, ils n'arrêtent pas de faire des vidéos disant que la bouffe qui vient du Canada est dégueulasse, on ne doit pas la prendre. À un moment donné, il y avait un scandale en France, là, c'était n'achetez pas des lentilles canadiennes, parce que le Canada cultive des lentilles. Eux autres, ils disaient nos trucs sont les petits légumineux, petits. Eux autres, ils disaient achetez pas ces trucs-là qui viennent du Canada, c'est de la scrap. Ils ont un gros système protectionniste en Europe sur les trucs alimentaires. Tu as également la tarification du carbone. Ce que ça peut vouloir dire, là, c'est que les produits qu'on exporte du Canada, comme l'acier, l'aluminium, tout ça, si leur production émet trop de gaz à effet de serre, ils ne veulent pas. Ou ça va être soumis à des quotas. Tu sais, puis là, je pourrais descendre la liste, là. Il y a une liste interminable d'exigences qui fait que les produits canadiens sont barrés ou difficilement ont accès au marché européen. Fait que c'est pas une panacée, cette affaire-là.
Ah, puis eux autres, ils aiment ça, ajouter des couches. La Bruxelles, là, c'est de les fonctionnaires, puis c'est de la paperasse. Tu sais, vous pensez ici qu'il y a de la réglementation, là, en Europe, c'est 10 fois pire, là. Ah oui. C'est un L, beaux up L, là, je sais pas comment on va le dire, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, là. Honnêtement, on va-tu gagner du temps?
Et l'Union européenne est très forte sur toutes les mesures vertes, hein, donc les mesures de tarification carbone, les mesures de carbone aux frontières, les mesures de réglementation.
Tous ces trucs-là, c'est beaucoup plus sévère qu'ici. Là.
Absolument. Dans l'alimentation, dans l'agriculture, c'est beaucoup plus sévère. Ça peut avoir du bon pour nous parce que on s'alignera peut-être avec des procédés industriels plus santé.
Ouais, mais attends, je t'arrête. Là, parce que moi, je suis un producteur de petits pois. J'en vais aux États-Unis. Ouais. Là, tu me dis, si l'Europe veut mes petits pois, il va falloir que j'adapte mes règles. Donc, je vais être encore plus contraint de vendre. Pourquoi tu penses que nos exportateurs ne vont pas en Europe?
Ben, comme le bœuf, notamment.
Ouais, on se met
devant mes yeux. Là. Au Canada, on produit beaucoup de viande, mais l'Union européenne interdit strictement le bœuf élevé avec des hormones de croissance.
Ouais.
Et ici, ça ne l'est pas interdit.
Ouais.
Non, mais ça ne marche pas. Là.
Non.
On s'en va où? Là?
Il n'y a rien là-dedans qui nous permet de vendre plus. Il y a tout là-dedans pour que l'Union européenne vienne profiter de nos ressources. D'ailleurs, elle s'en cache pas. Hein? Les documents européens sont extrêmement révélateurs. Ils parlent ouvertement de matières premières critiques canadiennes comme un moyen de sécuriser les chaînes d'approvisionnement européennes puis favoriser la transition verte et numérique.
Hey,
ils ont quelque chose d'intéressant chez nous. Nous n'avons rien d'intéressant chez eux.
On avait GNL Québec, projet au Saguenay. On devait exporter du gaz naturel liquéfié en Europe. Je ne sais pas ce qui est arrivé, hein? On n'a pas eu le mémo. La CAQ a décidé que ce projet-là était mort. Ils l'ont tué dans l'œuf. Projet d'exporter du pétrole aussi du côté de l'Europe.
Ouais.
On ne fait rien de ça. Un pipeline, pas de projet. On n'est pas là. Là, il faudrait se réveiller puis tout faire ça dedans d'à peu près quoi, 5 ans?
Pour
lorsque Trump sera plus là, on va revirer de bord puis on va revenir. Vois-tu, il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
Oui, oui. Puis il y a une contradiction majeure entre le volet énergétique puis le volet climatique, là, parce que. Oui, on pourrait augmenter les échanges de GNL puis d'énergie nucléaire puis de matières premières, mais ça engage ces ententes-là, le Canada, à renforcer la tarification carbone, les mesures carbone aux frontières, la décarbonation industrielle, la transition hors des combustibles fossiles. Donc, finalement, l'ouvrage qu'avait écrit M. Carney n'est pas si loin derrière toute cette manœuvre de se tourner vers l'Europe.
Donc, lui, c'est un imposteur. Lui, il nous avait dit qu'il allait régler en dedans de quelques mois.
En juillet 2025.
On réglait avec Trump, on avait un deal sur la table. Là, on est en train de vendre, on s'en va vendre le Canada à l'Europe. Il va déposer le Canada sur le plateau de l'hôtel, puis voilà.
Non, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. On n'a pas voté pour ça. Là.
Un autre angle mort, c'est le rapprochement au niveau numérique. Tout ce qui est numérique, oui. Le Canada et l'Europe veulent s'aligner ensemble, sauf qu'on sait que l'Union européenne veut réglementer fortement tout ce qui est numérique. Donc, il y a de plus en plus de rapprochement avec la tentative des États de ce règlement européen de limiter la liberté d'expression, censurer les réseaux sociaux sous couvert de protéger les citoyens de la désinformation. Donc, qui va définir la désinformation? Est-ce que maintenant, ça va se définir en Europe? Quels mécanismes vont être utilisés? Quelles données vont être échangées? Quelles obligations vont nous être imposées? Là, franchement, même au niveau numérique, il n'y a rien à gagner là-dedans parce qu'on ne sera plus souverain. Puis on a des élections où on a des parlementaires qui sont censés voter des lois, se consulter ensemble, être soumis au contre-pouvoir de l'opposition, au contre-pouvoir de nos journalistes. Mais finalement, ce qui va se passer, c'est que tout va se décider à Bruxelles en matière de numérique aussi. Donc, c'est vraiment... On se dirige vers quelque chose de vraiment inquiétant. On
cassure,
nous a fait croire que la grande menace, c'était la présidence américaine républicaine actuelle de M. Trump. Mais la plus grande menace, c'est de s'ajouter cette couche de pouvoir supplémentaire.
Oui, parce que là, c'est les petits hommes gris de Bruxelles qui vont dominer. Là.
Et oui, et déjà non élus, parce que le Parlement européen travaille de cette façon-là, des réglementations qui sont concoctées, tricotées par des technocrates, par des fonctionnaires, par des bureaucrates et qui sont imposés aux États qui perdent de plus en plus en souveraineté. On l'entend partout dans les médias. Vous lisez les médias européens. Les États sont en train de perdre complètement leur souveraineté à plusieurs chapitres parce que Bruxelles prend de plus en plus.
Lui, on dirait qu'il essaye de remettre la porte à dents dans le tube pour l'histoire du Brexit. Lui, il était, faisait partie...
Ouais, il était là. Lui
était en grande... Oui, puis il faisait partie... de ce milieu financier-là des banques britanniques qui étaient contre la sortie de l'Union européenne. Ça s'est fait pareil, c'est ça que les gens ont voté. Mais c'est comme si là, ils se disaient « Ah ben, il y en a un qui est sorti, il y en a un autre qui va rentrer. » Tu sais, rentrer, peut-être pas officiellement, on comprend, là, tu peux pas rentrer le Canada dans l'Union européenne de même, là, mais tu sais, les rapprochements avec l'Europe, on dirait que c'est comme une manière de réécrire cette histoire-là qu'on n'aurait pas voulu qu'il arrive.
Mais c'est le Dominion? C'est quoi? C'est l'Union européenne mais avec le Dominion, on veut... Parce que Carney, il était à la Banque d'Angleterre. Le monopole des banques en Europe, notamment en Iran, parce que là, Trump se bat aussi contre ça, hein, le monopole des banques, notamment britanniques, qui ont l'emprise pas mal dans toute la région du proche Moyen-Orient. En Iran, qui avait l'argent des mollahs et des gardiens de la Révolution? C'est les banques britanniques. On est en train de les tasser tranquillement. Qui assurait le détroit d'Hormuz? C'était la Lloyd's de Londres.
Ben oui.
On est en train de les tasser. Nous autres, on s'en va se vendre, on s'en va donner nos ressources à gang aux Britanniques.
C'est super intéressant, Pierre.
Et l'Europe, là?
Parce qu'effectivement, quand on remonte le filon de tout ça, c'est un peu City of London, c'est un peu la cité de Londres contre Donald Trump et ceux qui soutiennent le mouvement trumpiste de se révolter contre cet impérialisme britannique qui vient de la cité de Londres, effectivement.
Et Carney vient de là, il était gouverneur de la Banque d'Angleterre. Voyons, il...
Son premier voyage à l'étranger, ça a été pour voir le roi.
Prendre les ordres,
ça a été pour voir le roi.
Ouais, faire venir le roi ici
pour faire la couronne britannique. Ben oui, là, la semaine prochaine, il faut surveiller ça, son discours au Parlement européen. Il faut surveiller aussi le 29 et 30 octobre, il va y avoir un sommet entre le Canada et l'Union européenne. C'est l'Union, c'est Bruxelles, c'est Ursula von der Leyen qui va se déplacer, qui va venir notamment ici au Canada. On ne sait pas encore c'est où, mais le 29 et 30 octobre, ça va se passer au Canada, ce sommet avec l'Union européenne.
Fait que tout est stagé, là. C'est
mais
ça que tu es en train de me dire.
On ne sait pas encore c'est où au Canada.
Fait que finalement, la crise des tarifs, c'était juste un prétexte pour enclencher une espèce d'agenda. L'Europe, les élections au Québec, il y a un référendum en Alberta aussi.
Oui. C'est une belle façon
une belle mécanique.
De maintenir cette tension-là avec les États-Unis. C'est une belle mécanique pour s'assurer qu'on avance dans cet agenda de se rapprocher des mondialistes, finalement.
Ah, fascinant. Jacinthe Everel, toujours un plaisir.
Merci.
Lundi.
Oui.
On se revoit lundi. Alors voilà, Frank, après la pause, ben Jordan.
Yes.
Les Capitals ont gagné. Hier, la NFL est partie. Tout le monde était content. 13-10. Les Seahawks donneront pas leur peau comme ça. Ça va être tough passer, ces Seahawks. On revient après la pause.
Couture dans le mid.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.